Bienvenue dans l'émission Urgence, présentée par la section La Ligue des droits de l'homme, Villefranche de Cazeville et CFM. C'est l'émission de rentrée et nous profitons de cette occasion pour vous présenter l'historique de la Ligue des droits de l'homme au niveau national et au niveau local, ainsi que nos actions. Pour en parler avec nous, nous recevons Pierre Tournemire et Guy Cousset et traditionnellement, nous terminerons avec le billet d'humeur de Dominique Ladé. Mais avant, nous allons écouter Jean Ferrat, Ma France.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Vous venez d'écouter Jean Ferrat, Ma France. Vous êtes sur CFM, autour de la table avec Pierre Tournemire et Guy Cousset. Pierre Tournemire, parle-nous de la Ligue des droits de l'homme.
D'abord, pour éviter toute ambiguïté, Ligue des droits de l'homme, homme, c'est concerne aussi bien les femmes que les hommes. Les droits humains. Cette question est très, très ancienne. Elle a traversé toute l'histoire de l'humanité. Et espérer avec la Révolution que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen réglerait les choses. On s'est aperçu rapidement que ça ne suffisait pas. Même la Deuxième République, qui avait donné le suffrage universel, n'a pas empêché que soit élu un dictateur. Et la Troisième République, qui a mis en œuvre toute une série de mesures en faveur des libertés, n'a pas empêché qu'un innocent soit condamné. Dreyfus, capitaine à l'état-major, était soupçonné injustement d'avoir trahi. Et comme l'armée, l'Église catholique, au nom de la raison d'État, s'opposait à la révision de son procès, il a fallu créer une ligue de tous ceux qui voulaient justement défendre cet innocent. Au-delà de ce combat qui a fini par aboutir, il a fallu aussi, au début du XXe siècle, défendre les responsables syndicalistes qui étaient injustement condamnés. Il a fallu aussi, après la guerre de 14-18, contribuer à la réhabilitation de soldats qui avaient été fusillés pour l'exemple, alors qu'ils n'étaient en rien coupables. Il a fallu lutter contre le fascisme, et la Ligue des droits de l'homme a pris une part active dans l'entre-deux-guerres, puisqu'elle a créé le Comité national de rassemblement populaire, et c'est dans ces locaux, à Paris, qu'ont été signés le pacte qui allait donner naissance au Front populaire. Juste avant la guerre, les membres de la Ligue se sont un petit peu divisés entre ceux qui, sur deux questions essentielles, entre la colonisation et le pacifisme. Sur la colonisation, certains étaient radicalement hostiles. D'autres considéraient que c'était aussi une forme d'émancipation des peuples. Sur le pacifisme, certains étaient totalement contre la guerre et considéraient qu'il fallait la paix à tout prix. D'autres considéraient qu'il fallait résister à l'hégémonie des puissances étrangères, notamment des puissances fascistes. La question, hélas, a été résolue par la défaite de 1940 et la victoire des Allemands qui a amené au pouvoir le maréchal Pétain, qui a dissous la Ligue des droits de l'homme, confisqué ses archives, que d'ailleurs on a retrouvées fin des années 90 à Moscou, où l'Union soviétique les avait conservées après que l'armée rouge les ait pris aux armées nazies. Et la Ligue a quelques difficultés pour se reconstituer après la libération, mais elle a eu plein de sujets justement pour défendre les droits, pour défendre les immigrés, pour défendre les licenciements abusifs, pour défendre les discriminations. Bref, toute une grande activité dont on verra à l'actualité. Mais je pense qu'auparavant, il serait intéressant que Guy Cousset nous dise un petit peu l'histoire de la Ligue des droits de l'homme à Villefranche-de-Rouergue.
Sommairement, bien sûr. Le narrateur, ainsi se nommait l'ancêtre de notre actuel Villefranchois, informe ses lecteurs le 15 août 1903 de la création d'une section de la Ligue des droits de l'homme à Villefranche-de-Rouergue. Ce journal local relatait régulièrement les activités de notre section. J'aurais pu vous dire que le bureau d'alors se composait de messieurs... Beaucoup de petits points. Est-ce bien nécessaire? Rappelons que nous sommes en 1903. Donc, ça n'est pas indispensable que je vous récite les noms. À cette époque, tout comme à l'heure actuelle, la Ligue poursuit deux tâches essentielles. Premièrement, défendre, sans distinction de naissance, de nationalité, de fortune ou d'opinion, toutes les victimes illustres ou obscures de l'injustice et de l'arbitraire. Deuxièmement, défendre aussi la République, la démocratie et la paix contre toutes les tentatives de force de réaction. Plus tard, nous aurons peut-être l'occasion de développer les actions menées par notre Ligue, notre section actuelle de la Ligue des droits de l'homme, Villefranche de Casseville. Je repasse la parole à mes collègues.
Alors, peut-être avant de rentrer dans les actions locales, dire quelques mots sur les grandes orientations nationales et que ensuite le président Guy Cabrit pourra décliner, à la fois préciser et puis décliner sur Villefranche. Ce qui caractérise la Ligue des droits de l'homme par définition, c'est la défense des libertés contre toutes les mesures de surveillance et toutes les mesures xénophobes. On voit bien aujourd'hui que ces libertés sont effectivement menacé, on peut dire que la République connaît des difficultés parce que des mesures sécuritaires sont prises au nom de la sécurité, on réduit les libertés. Comme si, et Jefferson disait déjà que à vouloir diminuer les libertés pas pour gagner la sécurité, on méritait ni l'un ni l'autre parce qu'on perdrait les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit bien avec la loi LOPCI 2, toute une série de mesures qui renforcent des atteintes aux libertés individuelles au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la lutte contre la délinquance, ne vont pas dans le bon sens, puisque justement, ça ne réduit pas la délinquance et ça n'empêche pas ici ou là quelques actes terroristes. Donc, tout ce qui touche les fichiers, tout ce qui touche des mesures de contrôle renforcées, d'intervention de la police, des écoutes, bref, tout ça ne va pas dans le bon sens. Surtout, que s'ajoutent à ça des mesures xénophobes, c'est-à-dire que on veut ethniciser les problèmes, comme parce que si on était né rom ou de telle ou telle origine, on serait forcément assigné à résidence de son identité et coupable par définition d'actes. Donc je pense que tout ça fait qu'il est nécessaire plus que jamais que la Ligue des droits de l'homme se pose en défenseur des libertés. Elle doit aussi se poser en défenseur de la justice, car on voit bien aujourd'hui que des inégalités perdurent et que et c'est lié aussi aux droits économiques et sociaux qu'il faut préserver, puisque la misère croît au cœur de l'opulence, des inégalités s'aggravent, des injustices et des conséquences dramatiques sur des fractures sociales s'installent dans notre pays. Donc il est nécessaire effectivement qu'on se mobilise pour tout ça. De même qu'il est nécessaire de se mobiliser contre le racisme l'antisémitisme. J'ai parlé de l'ethnicisation des problèmes. On voit bien aussi aujourd'hui que des mesures importantes doivent être prises pour éviter des actes racistes. Et enfin, il faut se mobiliser pour la laïcité. Mais une laïcité qui ne soit vraiment garante, affirme une volonté de ne pas céder aux prétentions hégémoniques d'une culture dont l'universalité proclamée est traversée de prétentions uniformisantes. Il est nécessaire aujourd'hui, au contraire, qu'on revendique à la fois, bien sûr, la liberté de conscience et la liberté de pratiquer le culte de son choix ou de n'en pratiquer aucun, mais il est indispensable en même temps de conjuguer ça avec la nécessaire émancipation individuelle et collective pour que chacun soit en capacité de pouvoir se déterminer, de préconiser la justice sociale, car la misère est sourde à l'égalité de droit et la laïcité ne peut pas être au ciel des idées, et le pluralisme des cultures, car ce pluralisme doit effectivement être le ferment de l'intégration et une source d'enrichissement pour un vivre ensemble intelligent avec des valeurs librement partagées. Et alors tout ça, Guy Cabrite, tu es président de la Ligue locale, tu vas peut-être nous dire un petit peu qui tu es, comment ça se décline dans un ensemble plus vaste au niveau national, comment ça se coordonne et comment ça se traduit à Villefranche de Rouergue.
Oui, mais d'abord, bon, je vais me présenter. Je suis président de la Ligue, je suis arrivé à la Ligue, disons que c'est une démarche, c'est un parcours de ma vie. Je suis un militant associatif, j'ai été très jeune militant, j'ai d'abord milité à l'IEO, la première association que j'ai militée c'était l'Institut d'études occitanes, j'étais membre fondateur à Villefranche, et à l'époque il était important d'avoir la défense d'une langue régionale, de l'occitan en l'occurrence, puisque nous étions sous une république très centraliste, et de ce côté-là, bon, les choses ont avancé, puisqu'aujourd'hui l'occitan est enseigné à l'école, donc je pense qu'on a fait un chemin, et puis de là, bon, ça a suivi, j'étais au club sportif quand j'avais mes enfants. Les clubs sportifs, ils sont importants aussi, parce que ils créent le lien social, ils socialisent les enfants, notamment à Villefranche, bon, les clubs sportifs font un très très bon boulot, très très bon travail avec les jeunes, et donc ça je tenais à le souligner. Et puis ensuite, j'ai beaucoup participé en tant que militant FSPE à la vie de l'école. L'école pour moi c'est pilier de la République, et à la Ligue des droits de l'homme, nous savons que nous avons toujours su l'importance de l'école. Et nous sommes là, aujourd'hui l'école est en danger, l'école de la République c'est très important, c'est l'école qui permet de lutter contre les inégalités sociales, c'est son rôle, il faut absolument défendre cette école. Alors ensuite, bon, par rapport à tout ce qu'a dit Pierre Tournemire, tous les thèmes qu'il a abordés, que défend la Ligue des droits de l'homme, effectivement la Ligue des droits de l'homme au niveau national a mis en place cette année le pacte pour les droits et la citoyenneté. Signé par plus de 49 associations associatives et syndicales. En tant qu'organisation associative et syndicale, nous n'avons vocation ni à exercer le pouvoir ni à construire des programmes politiques. Il nous revient en revanche, en toute indépendance, de faire entendre la voix de la société civile, d'interpeller ceux qui sollicitent les suffrages des citoyens. Car le débat public doit se développer pour construire des réponses claires, nouvelles, en phase avec les attentes et les revendications dont nous sommes porteurs, en phase avec l'intérêt général. Les gouvernements tiennent leur légitimité du suffrage universel. Mais ils n'ont pas reçu mandat de remettre en cause les libertés, d'organiser la fragmentation sociale, de désigner des groupes sociaux entiers comme boucs émissaires de l'insécurité. Rien ne peut justifier qu'un nombre croissant de nos concitoyens se trouve placé en situation d'illégalité pour vivre, de travailler dur pour se retrouver menacé par la pauvreté, d'être en situation de risque dès qu'il s'agit de défendre ses droits. Or, nos droits, nos libertés sont attaqués, fragilisés, remis en cause. Chaque jour, un peu plus, la manière dont le pouvoir est exercé piétine les valeurs républicaines et menace l'effectivité de la démocratie. La mise en avant de crises bien réelles, écologiques, sociales, financières, ne saurait servir d'alibi à la régression des droits. Nos organisations placent au cœur de l'éthique démocratique les libertés individuelles et collectives, le respect de l'égalité et l'effectivité des solidarités. C'est pourquoi nous considérons que le temps est venu de réagir et de construire un nouveau vivre ensemble, un nouveau contrat citoyen. Il y a urgence. Lorsque les pouvoirs sont concentrés à l'Élysée, les contre-pouvoirs indépendants affaiblis, voire menacés de disparition, exemple le défenseur des enfants, le dialogue social, bousculé, voire réduit à une formalité, le mouvement associatif sommé de souffrir à une logique marchande d'appel d'offres, les collectivités territoriales menacées d'un retour de la tutelle, substitution d'office pour imposer la vidéosurveillance, la démocratie est privée d'oxygène. Avec la traque des sans-papiers, le durcissement incessant des conditions d'accès au séjour, les tests ADN, la propagande nauséabonde sur le thème de l'identité nationale étatisée, les encouragements à la délation, le ciblage des délinquants de la solidarité, une véritable xénophobie d'État défigure la République. Quand l'injustice fiscale augmente, quand les inégalités scolaires, territoriales, générationnelles s'accroissent sans cesse, quand les sacrifices demandés aux uns contrastent avec les privilèges affichés par les autres, se crée une situation lourde d'injustice et de péril. L'égalité est en jachère. Le fichage de dizaines de millions de citoyens, les interconnexions qui se multiplient, la systématisation du recours à la vidéosurveillance, le développement des techniques de traçage tissent une société de la surveillance et du soupçon. La justice est soumise à des pressions croissantes. Les missions de la police sont dévoyées, instrumentalisées, à des fins très éloignées de nos principes républicains. Bien trop éloignées. Les libertés sont en danger. Par un jeu de réformes successives, les services publics sont mis en pièces. La fonction publique n'est évoquée qu'au travers de son coût. La loi sur le logement social est impunément violée et les bases de notre pacte social sont livrées à un véritable travail de sape. Protection sociale, retraite, cohésion territoriale sont en ligne de mire. Les solidarités sont à l'encan. Il est temps de penser autrement, de faire autrement, d'ouvrir des perspectives nouvelles contre les prétendues fatalités. Nous choisissons l'espoir. Nous proposons aujourd'hui un pacte pour les droits et la citoyenneté. Un tel pacte doit se construire dans le temps long du débat démocratique et sur une base solide et partagée. C'est pourquoi nous affirmons ensemble les orientations fondamentales suivantes. La démocratie suppose la séparation des pouvoirs et le contrôle citoyen des gouvernants. Nous demandons le respect des attributions constitutionnelles du Parlement, du gouvernement et des autorités juridictionnelles, des garanties d'indépendance réelles et de moyens d'action suffisants pour les autorités indépendantes. La vie privée et les libertés doivent être protégées contre l'envahissement du contrôle social et le risque d'une surveillance généralisée. Nous demandons que le fichage généralisé et les interconnexions de fichiers soient proscrites, que la loi encadre les fichiers de police, que les technologies de surveillance, de fichage et de traçage soit sous contrôle effectif d'autorités indépendantes. La justice doit être indépendante et équitable, la police au service de la sûreté de tous. Nous demandons la suppression des juridictions d'exception et des régimes d'exception dans la procédure pénale. Le rétablissement de la spécificité de la justice des mineurs dans l'esprit de l'ordonnance de 1945. La garantie de l'indépendance de l'instruction pénale à l'égard du pouvoir politique. Le respect de la jurisprudence européenne sur la garde à vue. L'application des règles pénitentiaires du Conseil de l'Europe et la priorité aux alternatives à la prison. La fin des contrôles aux faciès. de l'emploi militarisé des forces de police, la sanction des violences policières et la création d'une police de proximité respectueuse des droits de tous les citoyens. La République est fraternelle et égale. Nous demandons la garantie de l'égalité face au racisme, au sexisme et aux discriminations. L'interdiction de tout enregistrement dans les fichiers administratifs ou de gestion de données personnelles relatives aux origines géographiques. L'engagement pour la mixité des droits et contre l'inégalité des genres. L'abrogation des lois xénophobes, la fin de la chasse aux sans-papiers et le respect de l'accueil inconditionnel excluant tout délit de solidarité. Vivre ensemble repose sur l'effectivité des droits sociaux, des solidarités. Nous demandons que cesse la mise en concurrence de tous et que des politiques de droit commun assurent l'accès de tous aux droits de tous. Les services publics doivent être défendus et modernisés. L'égalité devant l'impôt et les contributions sociales doit être rétablie. L'État doit assumer sa responsabilité de garant des droits à l'éducation, au logement, loi d'Allo, loi sur le logement social, aux soins et à la protection contre les risques sociaux. Le droit du travail doit pouvoir relever les défis de la précarité et de l'insécurité sociale. La protection des salariés doit pouvoir s'appuyer sur une sécurisation des parcours professionnels, sur un véritable statut du travail salarié. Le syndicalisme doit pouvoir vivre et se développer singulièrement dans les petites entreprises, sans avoir à craindre harcèlement, discrimination ni criminalisation du mouvement social. Nos organisations expriment un vaste champ de préoccupations et d'expertise, chacune avec son identité, sa part propre de responsabilité. Elles le font dans les limites de leur personnalité et de leur mandat, tout en partageant la démarche d'ensemble. Cette convergence est au cœur de notre pacte. Elle lui permet de faire vivre les valeurs dans lesquelles nos organisations se reconnaissent et qu'elles font vivre au quotidien. Pour lui donner un contenu concret, tangible et quotidien, aux orientations que nous partageons s'ajoutent des propositions concrètes que porteront plus particulièrement certaines de nos organisations. Elles concerneront la démocratie, la protection de la vie privée et des données personnelles, les droits et la liberté face à la justice, à la police et au système pénitentiaire, la lutte contre la xénophobie, le racisme, le sexisme et les discriminations, l'égalité sociale et les solidarités. À travers ce pacte proposé à la société française, nos organisations revendiquent une conception du politique qui place au cœur de l'éthique démocratique la garantie des libertés individuelles et collectives, la lutte contre les inégalités et la construction de nouvelles solidarités. C'est sur cette base qu'elles interpellent les responsables politiques et leur demandent de débattre et de s'engager clairement afin d'éclairer les choix des citoyens. Avec eux, avec tous, il nous revient de construire les réponses, nos réponses. L'avenir et l'espoir n'appartiennent à personne et ne sont pas écrits à l'avance. Les choix qui sont devant nous sont l'affaire de tous. C'est à elles, à eux, à nous tous, tous ensemble, qui reviennent de faire vivre le pacte passé entre la République et les citoyens. Maintenant, je vais passer la parole à Guy Cousset, qui va nous parler des actions que fait la Ligue des droits de l'homme, la section de Villefranche.
Bon, d'accord. Alors, je vais vous parler peut-être un peu succinctement de ce que nous faisons à la section de Villefranche de Rouac. Mais tout d'abord, je vais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Pierre Tournemire. Et j'ai feuilleté mon bouquin de la Ligue des droits de l'homme et je suis retombé sur un article que je vais me permettre de vous lire. Pierre Tournemire, tout à l'heure, a dit « La Ligue des droits de l'homme et de la femme ». J'insiste beaucoup là-dessus, moi, effectivement. Quand on va dans les lycées, on le dit toujours, les étudiantes se chargent de nous dire « Ah, la Ligue des droits de l'homme et les femmes, alors ». Mais non, mais c'est les deux. Et à ce sujet, je vais vous lire un article dans notre revue. Le voici, si vous le permettez, section de Villefranche de Rouergue. Au cours de la dernière réunion, notre section a examiné une nouvelle fois les problèmes relatifs à la défense des droits des femmes. Depuis 10 ans, elles ont eu l'occasion de montrer leurs compétences aux plus hauts échelons de l'État et de l'administration comme à la tête des grandes entreprises. En 1983, un texte de loi a consacré l'égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes. Puisque la nouvelle loi électorale repose sur les proportionnalités, il est bon de rappeler quelques chiffres aux partis politiques en train de constituer leur liste de candidats. Les femmes représentent 53% des électeurs. Elles ne sont que 5,9% à l'Assemblée nationale contre 7% en 1946. La France n'est qu'au 13e rang en Europe en ce qui concerne la représentation féminine. Ce texte a été dit en 1985 dans notre section, mais je pense qu'il est toujours d'actualité. Ce que je peux dire également, c'est que nous sommes à peu près une trentaine à la section de Villefranche-de-Rouergue et que la moitié de femmes sont des ligueuses. C'est très important de le signaler également. Alors, maintenant, on va passer à nos activités. Nous faisons, ça c'est un challenge national, ce que nous appelons les poèmes pour la fraternité, c'est-à-dire que nous nous adressons aux écoles élémentaires et nous leur proposons un thème sur la citoyenneté. Alors, et les élèves développent des choses, mais qui tous les ans nous surprennent. C'est national. Et faut pas faire un coup d'orgueil, mais c'est vrai qu'à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron, on s'en tire pas mal. Bon, je veux faire aucun orgueil là-dedans, parce que la fraternité est quand même internationale. Mais on est quand même content, parce qu'il y a pas mal d'écoles qui répondent. Et on a bien l'intention de la continuer, cette chose-là.
Je crois que par rapport à ça, bon, on peut quand même rappeler que l'école de Rignac, l'an dernier, a été primée, et donc les élèves ont été à Paris, ont reçu le prix à Paris, et donc on est quand même très fiers que...
On est très contents.
Très contents qu'une école de du secteur de Villefranche ait gagné un concours.
Indiscutablement. Aussi, il y a une chose qu'on avait faite, on était les premiers, décidément, il n'y a aucune prétention là-dedans, on avait fait la votation citoyenne. On était la première ville de l'Aveyron à le faire. Effectivement, si je ne l'explique pas, vous n'êtes pas obligé de tout le monde de comprendre ce que c'est. C'est tout à fait normal. La votation citoyenne a été faite par le National de la Ligue des Droits de l'Homme pour permettre aux étrangers résidant en France et ne faisant pas partie de la communauté européenne de pouvoir voter aux élections législatives. C'est-à-dire qu'à côté de chez moi, j'ai un étranger qui depuis 30 ans habite le logement voisin du mien. Il paye ses impôts, il travaille très normalement, il paye ses impôts. Pourquoi n'aurait-il pas le droit d'élire le maire de sa commune? Voilà, c'est ça la votation citoyenne. Alors, cette votation citoyenne, on l'a fait deux fois. La première fois, la population s'est exprimée, ça a été non. Bon, on l'a refait l'année d'après, et là, ça a été un oui, on peut dire un oui massif. Peut-être qu'entre-temps, on a eu l'occasion d'expliquer par des conférences, d'expliquer ce qu'était exactement la votation citoyenne. Voilà, c'est une de nos actions. D'autres actions, je vous en ai parlé, des poèmes. En faisant un petit tour en arrière, on s'est occupé également lorsqu'il y avait le Larzac. Vous vous souvenez du Larzac? Bien sûr, tout le monde, enfin pas mal l'ont vécu, ce Larzac. Et je me souviens m'être fait raconter par mes anciens qu'à l'époque, on avait défendu, ça m'avait choqué agréablement, on avait défendu un curé qui s'était insurgé contre les actions du Larzac, qui avait rendu ses papiers, qui s'était retrouvé en tôle. Et c'est la Ligue des droits de l'homme qui avait défendu ce curé, lui permettant de reprendre une activité normale, si je puis dire. Ça avait été un de nos combats, ça aussi. Ça m'avait... On a pris position contre les essais nucléaires. On en parle de temps en temps également. On fait assez fréquemment, on organise des conférences débat avec des sujets variés, bien sûr. On a fait des sujets sur les sectes. C'était une organisation de Toulouse, oui, qui était venue nous faire cette conférence. Et elle avait fait sa conférence dans le lycée Savignac. Ce lycée Savignac qui, décidément, avec lequel, plus exactement, nous travaillons quand même pas mal. Je mets « travailler » entre guillemets. Travaillons pas mal, parce que le lycée Savignac, tous les ans, fait le concours de mémorial de Caen. Tous les ans, il y a un concours national, et ses élèves sont retenus jusqu'à aller en finale à Paris. Et ces finalistes, ou une dizaine, on prend une dizaine de ces élèves, ils viennent au théâtre nous faire des plaidoiries sur la citoyenneté, sur les droits de l'homme, finalement. Et à chaque fois, avec un grand succès, puisque, j'ose le dire, le bas du théâtre est plein. parle pas du haut, mais le bas est plein. Ça, c'est une réussite de notre part. Également, nous faisons une émission de radio mensuelle avec le thème que notre président, sur des thèmes que le président vous a développé tout à l'heure. Alors, on fait un micro-trottoir, on demande leur avis aux gens, ça passe à la radio, CFM, où on est toujours très bien accueillis, malgré nos bégaiements. On nous en veut pas, merci. Et on développe les sujets choisis. On fait un micro-trottoir, les gens s'expriment, c'est pas mal. Et on a un petit peu ouvert cette émission, justement, une fois de plus, avec le lycée Savignac. Et bientôt, ce sont les lycéens qui viendront s'exprimer à la radio. Alors, c'est en cours de fabrication, mais comme éducation citoyenne, moi, je trouve ça assez profond et intéressant.
Oui, par rapport à ça, là, je veux rebondir un peu. D'abord, sur ce micro-trottoir qu'on fait une fois par mois sur le marché de Villefranche, c'est l'occasion pour la Ligue des droits de l'homme d'aller à la rencontre de nos concitoyens et de parler avec eux et d'avoir leurs préoccupations. Ce micro-trottoir, nous, on le fait avec beaucoup de plaisir parce que c'est un enrichissement et on s'aperçoit que les gens ont envie de parler, de communiquer et les sujets de société les intéressent. Donc, c'est très important d'aller à l'écoute des gens, c'est très important. Ensuite, effectivement, nous avons, la Ligue, nous avons une vocation, nous avons mis un accent pour travailler avec les jeunes. C'est très important pour nous, dans nos actions, de faire des actions avec des jeunes. Et je peux vous assurer qu'en tant que président de la Ligue, je suis très content lorsque j'ai une assemblée où j'ai beaucoup de jeunes en face de moi. Donc, et nous avons, on peut dire que lorsqu'il y a le mémorial de Caen, c'est le cas, puisqu'au théâtre, c'est vraiment une assemblée intergénérationnelle. Et j'espère que le projet qu'on va monter avec les jeunes du lycée professionnel, on réunira des jeunes et des vieux sages aussi autour pour participer et échanger nos idées. Donc ce projet que nous allons faire là de radio, c'est les jeunes vont choisir, ils vont choisir un sujet des droits de l'homme et ils vont faire un micro-trottoir, ils feront leur micro-trottoir, ils vont aller certainement avec des jeunes, enfin ils vont parler, faire leur micro. Au trottoir avec des jeunes et nous les aiderons à monter ce projet sur le sujet qu'ils auront, on leur trouvera des intervenants et nous finirons par une conférence débat au sein du lycée. Ça se fera aux alentours du mois d'avril, mai, ça, et bon, le moment venu, nous vous inviterons à participer à cette conférence débat. Je vais relaisser la parole à Guy, là, qui va nous redire un peu toutes nos actions, parce que je crois qu'on fait plus que ça.
Oh, on en fait plus que ça, je vous ai dit que ça allait être succinct. Ça, c'est sûr qu'on en fait plus que ça. Mais il y en a deux, quand même, qu'on aura tous retenu. La première, c'est pour le centenaire de la section. Le président national Michel Tubiana était venu à Villefranche. Nous avait fait une conférence qui a été vraiment suivie, appréciée, et il y avait vraiment beaucoup de monde. La deuxième, encore un coup. On a eu la chance d'avoir une fois de plus le président national. C'était pas le même, il s'appelait Jean-Pierre Dubois, qui a vraiment passionné son auditoire. Quand on peut le faire, quand on peut faire venir des orateurs de cette envergure, c'est un grand plaisir. Le plaisir est partagé par les auditeurs également. Mais nos actions ne s'arrêtent pas là, ça va de soi.
Oui, mais je crois qu'on est gâté, parce que oui, on a eu effectivement deux fois le président national qui sont venus, deux présidents nationaux qui sont venus à Villefranche, donc c'est quand même, on a eu pas mal de chances, toutes les sections ont pas cette chance-là. Et je pense que si on les a qui sont venus, c'est parce que sur le terrain, il y a un travail qui est fait et que bon, qui est reconnu aussi. Et il faut dire ce qui est, il faut pas. Ensuite, bon, sur nos actions, nous avons pris une position aussi, je tenais à le dire, quand même, sur la vidéosurveillance. C'est pas anodin, la vidéosurveillance dans Villefranche, dans le centre-ville, dans la Bastide, la Ligue des droits de l'homme s'oppose bien sûr à ce projet parce qu'elle ne répond pas aux attentes, nous ne pensons pas qu'elle réponde aux attentes des Villefranchois et elle est contre l'éthique de la Ligue des droits de l'homme.
Même, okay. Si je peux me permettre, même question, on a réfléchi, on en a beaucoup parlé de cette question-là et on est revenu sur la question efficacité. Je pense que tous autour de la table, on a conclu que l'efficacité était vraiment négative.
Mais on n'est pas contre la sécurité. Non, il ne faut pas croire que la Ligue des droits de l'homme n'est pas contre la sécurité. Effectivement, c'est un droit même. C'est un droit des citoyens d'avoir droit à la sécurité. Mais la sécurité, nous, on pense que c'est la prévention et que la sécurité, c'est l'affaire des hommes. Ce n'est pas l'affaire de la technique. Et on le voit dans les éléments, d'ailleurs... Sur la vidéosurveillance, il y a eu deux choses qui nous ont confortés dans ce que nous avions dit. C'est le rapport de la Cour des comptes qui montre son inutilité. Et ensuite, il y a eu les événements qui sont passés en Angleterre, où l'Angleterre, qui est vraiment le pays de la vidéosurveillance, on s'est aperçu, ils ont été complètement dépassés face à certains événements. Et l'important, c'est la prévention, parce que quand vous volez votre sac à main, vous pouvez être filmé, là, ça ne sert à rien. Il y a un travail, et ça s'est fait d'ailleurs, on l'a vu là, sur le quartier du Tricot, on a eu un excellent travail, on a mis un médiateur en place, et il y a eu du bon travail qui a été fait. Et c'est vrai que nous, on était pour cette approche-là, on était sur le centre-ville pour une mise en place d'un médiateur plutôt que de la vidéo.
Une chose aussi que je voudrais ajouter, si on a le temps toutefois, c'est que la section de Villefranche va dans les lycées. Plus dans les lycées que dans le collège, je le regrette. Bon, on n'a pas encore eu l'occasion d'y aller beaucoup dans le collège, mais pourquoi pas. Dans les lycées, en accord avec, d'une part, le proviseur, et d'autre part, avec les professeurs, pour parler avec les élèves citoyenneté, en fonction du programme, évidemment. C'est pour ça qu'on a également besoin de parler avec les professeurs. Mais ça, on le fait, et on parle citoyenneté avec les lycéens. Je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, on a des réflexions, on ne donne pas un cours magistral, entendons-nous bien, on parle avec les élèves.
Oui, je tenais à dire aussi que la Ligue des droits de l'homme, la section locale, se réunit tous les premiers mercredis du mois. Et on vous invite à participer à cette réunion ouverte, si vous voulez voir comment on fonctionne, si les sujets, si ça vous intéresse de venir avec nous, vous êtes invités, vous êtes les bienvenus. Et puis je veux passer quand même la parole à Pierre Tournemire qui va nous parler aussi de la Ligue internationale des droits de l'homme.
Oui, parce que ces réunions sont aussi l'occasion, effectivement, d'aborder des problèmes nationaux, mais aussi internationaux. Aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans le monde, d'autant que, comme vient de le dire Guy Cabrit, nous sommes membres depuis très longtemps d'une fédération internationale des droits de l'homme qui a une activité très, très importante, et particulièrement en cette année où il faut quand même souligner le formidable espoir qu'a constitué ce qu'on a appelé le printemps arabe. En fait, ces populations qui ont considéré être dans des pays qui étaient tout à fait réticents et même incompatibles avec la démocratie. Donc il fallait qu'ils soient victimes de dictatures pour éviter qu'ils tombent sous l'emprise de l'islamisme le plus fondamentaliste. Ces peuples ont fait la démonstration au printemps qu'ils étaient capables de se mobiliser souvent dans la douleur, puisque ça a quand même provoqué des réactions fortes. Et pendant longtemps, on ne peut pas dire que les Occidentaux ont été à la hauteur de l'événement. On a longtemps regardé avec beaucoup de suspicion ce qui se passait. On pensait même que c'était la voie ouverte justement à l'islamisme, avec tout ce que ça pouvait avoir de conséquences pour le monde entier. Et on ne les a pas franchement soutenus. Heureusement, victoire aidant, on a rectifié un petit peu le tir. Et aujourd'hui, on voit bien que cette démocratie se met en place. Et comme à chaque fois, la démocratie, elle se met en place dans la douleur. Ça n'est pas si simple. Il y a effectivement des risques et une démocratie ne peut perdurer que si des citoyens sont véritablement égaux en droit et soient capables de faire preuve de fraternité avec lucidité et avec offensivité pour justement que soient préservés les droits de tous et un fonctionnement collectif qui aille dans le sens du progrès. Manifestement, il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays. Mais c'est quand même un espoir extraordinaire que ça représente pour nous. C'est même une petite leçon qu'ils nous ont donnée, car je pense qu'on les a souvent traités un peu par le mépris. Et ce n'est pas par hasard si toutes ces populations ont tendance à considérer que l'Occident continue à perdurer des mesures un peu néocolonialistes. Donc je pense que la Ligue des droits de l'homme et les échanges qu'on peut avoir autour de ça doivent y contribuer, doivent faire en sorte qu'on soit soutien de ces peuples, mais soutien au sens d'une véritable confiance qui n'empêche pas effectivement qu'on soit vigilant et que si demain des dérives antidémocratiques devaient s'opérer, nous devrions les condamner avec force. Mais un soutien tout à fait chaleureux et fraternel pour leur permettre de créer les conditions d'un bon fonctionnement. Et puis il y a un deuxième sujet, il y en aurait plein d'autres, mais il y a un deuxième sujet qui me paraît tout à fait essentiel par ces temps qui courent, on est en pleine actualité, c'est la question de la Palestine. Cette région du monde vit depuis plus de 60 ans dans une guerre permanente, dans l'insécurité, avec tout ce que ça peut provoquer de drames individuels et collectifs, et puis de répercussions à l'échelle du monde. On avait espéré beaucoup qu'un processus de paix allait mettre un terme à cette situation. Manifestement, ce processus de paix, aujourd'hui, n'a pas les résultats qu'on espère. Je crois qu'on ne pourra pas en sortir, effectivement, s'il n'y a pas la reconnaissance des droits de ces deux peuples. Et aussi bien Israël que la Palestine doivent disposer d'un État qui doit être préservé, sécurisé, et où les populations peuvent vivre tout à fait en harmonie. Alors on pourrait espérer qu'effectivement, sur un même territoire, des gens puissent cohabiter fraternellement, indépendamment de leur religion, de leurs habitudes, de leurs histoires, etc. C'est notre position fondamentale. On pense, nous, que justement, on doit pouvoir vivre intelligemment sans être obligé de penser la même chose ou d'avoir les mêmes comportements. Mais il faut bien considérer qu'il y a peut-être des temps et des échelons à passer. Et aujourd'hui, il est clair que en Palestine, il faut effectivement qu'il y ait un État qui dispose des droits, des moyens, qui pour pouvoir justement lutter contre les dérives, lutter contre la corruption et lutter pour un rapprochement véritable. Alors il faut pour ça du temps, vous savez, on n'a pas de leçon à donner. La France et l'Allemagne se sont opposées dans la douleur particulièrement cruelle pendant des générations pour finalement que... on considère que la seule issue intelligente, c'était la paix. Et pour ça, on a construit l'Europe. Donc, désespérons pas qu'au Moyen-Orient puisse se construire justement cette situation de paix. Mais ça ne se fera pas s'il n'y a pas une échelle, une mobilisation à l'échelle du monde. Et modestement, des sections comme la Ligue des droits de l'homme peuvent participer de faire comprendre cette nécessité que tout le monde se mobilise un petit peu partout pour pouvoir justement faire en sorte que les peuples se rapprochent. Donc ça suppose une activité, ça suppose donc des sections existent. Guy Cousset a expliqué que chaque section était tout à fait indépendante de définir son fonctionnement. C'est le cas de celle de Villefranche. Et peut-être que pour conclure, le président Guy Cabride va nous dire un petit peu comment... ça fonctionne et comment on peut faire partie de la section de Villefranche et quel rôle on peut y prendre.
Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission, nous nous réunissons tous les premiers mercredis du mois à la Maison des Sociétés, dont toutes les personnes qui veulent nous rencontrer sont les bienvenues. Hein. Toutes les gens qui sont préoccupés par la défense des valeurs républicaines seront agréablement accueillis et je sais pas, peut-être Guy Cousset, tu peux parler un peu là. Comment tu es venu à la Ligue,
Si tu veux. À la base de venir à la Ligue des droits de l'homme, faut déjà quand même, osons le dire, un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est ouvert à l'autre, c'est ouvert vers l'autre, indiscutablement. Et la Ligue des droits de l'homme, beaucoup en ont entendu parler, mais beaucoup également ne savent pas exactement comment ça fonctionne. C'est simple. On se réunit, c'est simple, il vous suffit de venir voir, vous serez toujours les bienvenus, on vous accueillera à bras ouverts, ça ne pose absolument aucun problème. Et on vous fera pas payer la cotisation parce qu'on demande d'abord aux gens d'être bien avec nous, voilà, de pouvoir participer à la conversation. C'est comme ça que je suis venu, moi. J'avais un ligueur que j'aime beaucoup, qui a 95 ans maintenant, qui s'appelle Georges Galzin, c'est notre plus vieux. Mais il est d'une fraîcheur, je voudrais bien avoir sa fraîcheur d'esprit. Et ce gars, ce type, ce copain, m'avait dit « Tu devrais venir un jour à l'une de nos réunions de la Ligue des droits de l'homme, je crois que ça t'intéresserait. » Il avait raison, le bougre, avouons-le. Mais il suffit des fois d'un déclencheur comme ça, humain, et hop, on s'y pointe, on écoute, on dit rien, on n'est pas obligé de parler la première fois, Mais on s'aperçoit qu'on a affaire à des gens citoyennement engagés. On ne va pas du jour au lendemain changer le monde. On n'a pas cette prétention. Mais si on peut faire un petit quelque chose, c'est déjà ça. Si on peut réfléchir, ce qu'on demande, c'est réfléchir. Réfléchir et de faire part de ses réflexions à ses camarades ligueurs, à ses amis ligueurs, ça c'est sûr. Et peut-être aller plus loin quand on le peut également, mais au moins participer.
Oui, je crois que ça c'est la démarche citoyenne, hein. C'est une des motivations des ligueurs. Et je crois qu'on veut avoir notre part dans la vie de la cité. Je crois que ça, c'est quelque chose qui nous anime tous. Et nous sommes acteurs, c'est-à-dire que cette société que nous construisons, ben, nous voulons peser de notre poids, nous voulons nous servir de nos expériences aussi professionnelles, puisque nous avons tous un passé, nous avons des acquis, et nous mettons ça au service de la collectivité, oui, de nos savoir-faire. Tu veux dire quelque chose, Pierre?
Mais il est évident qu'on n'est efficace que si on est nombreux. Et plus il y aura des gens qui estimeront prendre leur place à Ligue de l'Homme, qu'on pourra espérer justement être plus en phase avec les questions de notre temps.
Alors c'est vrai, oui, par rapport à ce que tu viens de dire, que nous travaillons aussi avec les autres, d'autres associations, nous l'avons dit dans le cadre du pacte, c'est au niveau national, mais au niveau local, nous montons des actions avec d'autres associations villefranchoises. Nous n'avons pas peur de nous ménager et de nous confronter avec les autres, et on s'est dégagé des consensus.
L'un de nos anciens présidents nous disait, on fait de la politique à la Ligue des droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est faire de la politique? C'est dans le sens premier du terme, c'est-à-dire faire partie de la vie intérieure de la cité. On s'occupe de la vie de la cité, c'est ça faire de la politique. Voilà. Et nous, on fait de la politique dans ce sens-là.
Ça n'est pas faire les élections, c'est faire des électeurs.
Voilà. Après ce tour d'horizon, j'espère que nous avons suscité votre intérêt sur la Ligue des droits de l'homme. Merci à Pierre Tournemire et à Guy Cousset d'être venus. Pour continuer l'émission, nous retrouvons Dominique Ladé et son billet d'humeur.
Ce début de l'année 2011 a été riche en événements de toutes sortes. Elle n'est pas finie. Pour cette reprise, par où commencer? Entre désastres naturels ou technologiques, entre guerres qui s'enlisent et guerres de libération, entre chutes de dictateurs et massacres ou tortures de civils, protestataires ou non, entre faits avérés et informations soigneusement distillées ou rumeurs appuyées, téléguidées, qui bizarrement tombent à des moments très stratégiques pour déstabiliser tel ou tel adversaire, entre l'annonce de la mort de Ben Laden et la commémoration des attentats du 11 septembre, déjà 10 ans. Entre tsunami au Japon et ses conséquences directes et indirectes, et crash boursier, véritable tsunami sociétal qui met en exergue les dysfonctionnements de ce monde libéral financier, que choisir? À quoi réagir? Partout, il s'agit bien de la liberté, à la base, de la liberté de conscience et des responsabilités individuelles et collectives, mais aussi du bien commun, qui s'oppose au bien particulier, de l'intérêt individuel qui met en péril l'intérêt général. Il n'y a pas que Muammar Kadhafi qui doit ou va devoir chercher un alibi. Et en dessus de tout ça trône le spectre sans arrêt ressorti de l'insécurité, qui là aussi relève plus du matraquage, de la manipulation politico-médiatique que de la réalité vraie. Et les réponses sont pour moi hallucinantes. Complètement inadapté. Que dire des désirs d'installation de caméras de vidéosurveillance, en général et en particulier pour les communes très 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 délinquantes comme Londres, par exemple, et évidemment bien sûr Villefranche de Rouergue. Qu'en dire? Que c'est dû à une volonté politique réelle, consciente et forte, ou à des intérêts financiers de quelques puissants? Bien sûr, sans doute. Mais sur le fond, là aussi, ces politiques, ces hommes politiques, sont poussés, précédés par des citoyens, si j'ose dire, qui ne voient que le fait immédiat gênant, incivilité, acte délictueux ou même crime, sans recul aucun. touchés dans leurs biens ou même leur intégrité physique, leur personne ou leur entourage, ceux qui sont à blâmer ne sont pas ces victimes directes ou indirectes. Ils expriment le plus souvent une douleur bien réelle, un mal-être compréhensible et souvent respectable. Non, pour moi, ce ne sont pas eux, mais bien ceux qui sont censés les représenter dans la gestion de telle ou telle collectivité. Et là, c'est totalement anormal et grave de voir ces responsables se cacher derrière, se servir de cette douleur exprimée pour apporter une réponse dite rapide, le plus souvent inadaptée, et qui pratiquement tout le temps ne règle pas le problème. La délinquance la plus nombreuse ne peut pas être réglée, c'est-à-dire éradiquée, par plus de prison et de répression, par plus de suppression de liberté pour les auteurs de ces actes, mais pour des victimes ou les citoyens. Or, la vidéosurveillance, contrairement à ce qui est dit couramment, est bien un viol de la liberté de circuler et d'agir, évidemment dans le respect des lois. Elle a prouvé maintenant de façon certaine, voire l'abandon de ce système par Londres et le rapport de la Cour des comptes, qu'elle est inefficace comparativement au coût de l'installation et du fonctionnement. Le double effet qui se coule, si j'ose dire, c'est qu'au nom de l'efficacité de ce système, dont on vient de dire qu'il ne l'est pas, vous suivez, j'espère, toujours. Le double effet, donc, c'est la suppression de postes d'intervenants humains. Un des plus beaux exemples est la vidéosurveillance à l'entrée des lycées. Si un acte, quel qu'il soit, est repéré par la caméra, que se passe-t-il ? Elle ne peut pas agir. Un humain l'aurait fait. Cher, donc, et inefficace. Mais la mise en place de ce système laisse entendre, fait croire aux gens du peuple qu'on s'occupe bien d'eux. Après ces fausses réponses, dont celle-là n'est qu'un exemple, comment ne pas faire le lien avec le droit de vote ? Combien de fois j'ai entendu ? Vous avez entendu ? Nous avons entendu ? Je ne vais pas voter, ça sert à rien, tous les mêmes. Partant de là, comment voulez-vous que quelque chose change ? On ne s'exprime même pas pour le moins mauvais à notre sens. On se tait au moment du choix des urnes, au moment où, malgré tout, ma voix, mon bulletin de vote vaut autant que celui des plus riches, autant que celui du président de la République. Des hommes sont morts et meurent tous les jours, encore pour gagner et conserver ce droit. Et de l'autre côté, des Libyens se battent pour acquérir des droits qui leur ont été refusés jusque-là. Ce combat est loin d'être fini, il ne fait que commencer. Gagner la guerre est relativement facile. Il faut maintenant gagner la paix, avec toutes les composantes d'un peuple éclaté en de nombreuses tribus et de groupes ethniques. Devant tout ça, que faire ? Moi, individu et citoyen, je ne suis rien. Je ne suis vraiment ni reconnu ni respecté. On se sert de moi, je ne crois plus en rien. Je suis l'alibi pour servir tel ou tel intérêt. On me fait dire tout et son contraire. Et en final, je me laisse faire. Réagir selon ma conscience me demanderait trop d'énergie. Du coup, je préfère souvent des solutions faciles, celles qui m'impliquent moins, qui sont parfois, souvent, simpliste. Mais pas d'illusion, ce raisonnement est vrai pour pratiquement tout le monde, dans l'un ou l'autre des domaines de la vie, à l'un ou l'autre moment. Et moi, de quoi je suis fait ? Comment me suis-je construit ? Pour ma part, mais on peut généraliser sans problème, je suis plus une construction collective, fait de mes échanges avec le monde extérieur, de mes échanges avec mes collègues, avec mes amis, de l'éducation que j'ai reçue, de la somme de ce que j'ai emmagasiné, de ce que je vois, de ce que je lis, de ce que j'entends, et de la digestion que j'en fais. À tout cela se rajoutent les comportements ou ce que certains appellent les romans transgénérationnels que nos familles écrivent et jouent au cours des siècles. Nous sommes faits de tout cela.
C'était la rentrée d'urgence sur CFM. Vous nous retrouverez tous les quatrièmes week-ends du mois, le samedi à 11h et le dimanche à 20h. Je pense que je n'ai rien oublié. Et je vous dis au mois prochain sur un nouveau sujet de société.